religieuses aujourd'hui et demain. En compagnie de Mathieu Lavigne et de ses invités.
Bonjour à vous, ici Mathieu Lavigne au micro de ce premier épisode de Vie religieuse aujourd'hui et demain, un tout nouveau rendez-vous hebdomadaire proposé par la Conférence religieuse canadienne. Chaque semaine, nous vous présenterons des entrevues, des témoignages de personnes consacrées, sœurs, frères, prêtres, qui s'exprimeront sur des thématiques liées à la vie de l'Église et des communautés religieuses canadiennes, ainsi que sur leurs engagements dans la société d'aujourd'hui et de demain. Nous avons cru bon ouvrir cette série avec 3 épisodes portant sur le thème « Vie religieuse du présent vers l'avenir ». Nous mènerons cette vaste réflexion avec 3 jeunes religieuses et religieux ayant dans la trentaine ou la jeune quarantaine. 3 jeunes personnes consacrées qui, par leurs actions et leurs prières construisent la vie religieuse de demain. J'ai donc le bonheur d'avoir à mes côtés Sœur Ginette Généreux, qui est entrée chez les Recluses missionnaires en 2001 et qui a prononcé ses vœux perpétuels en 2008, Violaine Paradis, sœur de la Congrégation de Notre-Dame depuis 7 ans, et Martin Lortie, frère de l'Ordre des moines cisterciens, où il fut accueilli en 2003 pour rejoindre officiellement l'Ordre en 2009. Bonjour à vous 3.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors que ces 2 prochaines semaines, nous discuterons de votre engagement au sein de l'Église et de la société et réfléchirons sur les défis de la vie religieuse d'aujourd'hui et de demain, ce premier épisode portera davantage sur vous 3, sur votre façon de vivre votre foi et votre engagement, bref, sur votre parcours. Alors, j'aimerais débuter cette conversation par ce qui est souvent désigné comme l'appel. Appel à la vie religieuse, mais surtout appel de Dieu. Quelle a été votre expérience de cet appel? Comment est-ce qu'il s'est manifesté? Comment l'avez-vous reçu, Sœur Violaine?
Bien, comment j'ai reçu l'appel? Je dirais que, dans un premier temps, ça se précise au fil des ans. Mais le moment où j'ai vraiment ressenti un peu plus, en fait, l'appel, comme vous le dites, c'est au moment où j'ai été, me retirer dans un lieu pour me retrouver au cœur de ce que je vivais. Là, je vivais quelque chose, j'étais un peu dans le brouillard et j'avais besoin de me recueillir. Et c'est au cœur du silence, ce qui est particulier, c'est que c'était chez les moines à oui. Oka, alors là où Martin demeurait avant qu'il déménage à Saint-Jean-de-Mata. Donc j'étais là-bas et c'est vraiment au cœur du silence que j'ai senti un appel à mettre Dieu au cœur et au centre de ma vie de façon plus consciente. Mais après ça, ça s'est précisé au fil des ans qu'il y a eu l'appel à la vie religieuse comme telle.
Mm-hmm. Donc, un premier appel, mais après ça, il y a une décision à prendre avec ce qu'on fait avec cet appel.
Exactement. Et ce qui se précise au long des années.
Mm-hmm. Ouais. Martin?
Ben, je dirais que c'est un peu le... L'appel, c'est un long processus, en fait. C'est sûr qu'il y a eu un moment déterminant dans ma vie, mais je pense que quand je relis mon parcours, il y a eu les études en philosophie qui m'ont ramené à l'essentiel et puis qui m'ont ramené à la foi. Pas que j'avais quitté, mais disons, me ramener de manière de plus sérieuse. Et puis, un jour, pendant que j'étais en prière, en fait, il y a eu vraiment un moment intense de présence de Dieu dans ma vie. Je pense qu'on peut appeler ça un baptême de feu. Alors, à ce moment-là, c'est comme si tout avait basculé dans ma vie. Puis, j'aime bien citer Christian Bobin dans son livre « Le Christ au coquelicot » qui dit « Quand la vérité entre dans un cœur, elle est comme une petite fille qui, entrant dans une pièce, fait aussitôt paraître vieux tout ce qui s'y trouve. » Donc, c'est comme tout ce qui était à l'extérieur de moi, où tout ce qui était superficiel était vraiment désintéressé à ce moment-là. Alors, pour moi, ça a été un basculement, ce moment de présence de Dieu dans ma vie qui me fait entrer en vie religieuse, mais c'est sûr que ça prendrait beaucoup de temps à raconter, mais disons...
Tout le cheminement.
Le, c'est ouais. ça, mais le point tournant, ça a été ça. Mais un appel, c'est pas juste un moment précis, c'est vraiment un ensemble de bornes, je dirais, dans ma vie qui m'a permis de discerner cet appel à la vie religieuse.
Sœur Ginette?
Moi aussi, je peux dire que ça a été progressif. J'ai vécu une expérience qui a basculé ma vie aussi à 17 ans, où je me suis sentie aimée profondément par le Christ. Et suite à cette expérience-là, 3 mois après, j'ai eu un premier désir fort à l'intérieur de donner toute ma vie à Dieu. Mais à ce moment-là, ça n'équivalait pas vie religieuse.
Mm-hmm.
C'était une espèce de désir. Il y avait quelque chose de total, mais ça restait vague. Et c'est vraiment au fur et à mesure de mon parcours que ça s'est clarifié. Et à un moment donné, quand c'est devenu clair que c'est la vie religieuse, là, les choses se mettent en marche là, pour répondre concrètement à ce désir-là.
Est-ce qu'il y a une dimension physique à ce, quand on entend cet appel-là? Est-ce qu'il y a un aspect physique ressenti concret? Martin?
Pour ma part, en tout cas, j'entendais toujours une petite voix comme « suis-moi ». C'est sûr que l'expérience comme telle, une expérience de présence de Dieu, c'est toujours physique. Je me rappelle quand je suis sorti de la chapelle, tout était un peu, un peu sombre, un peu embrouillé par rapport à la beauté que je venais de vivre. Hein, donc, il y a quelque chose qui fait que l'appel religieux se ressent dans ton être. Et c'est ça qui nous suit, je pense, tout le long. Ce qui nous permet de durer, en fait, dans le temps, c'est que l'appel transforme notre être.
Mm-hmm.
C'est pas une question d'avoir, justement, parce qu'on renonce, en une certaine façon, à des biens qui sont très bien. Comme je dis,
oui.
C'est un peu tautologiste, mais qui sont bien. Mais en fait, on veut vraiment être transformé par la présence de Dieu. Alors, c'est sûr qu'on le ressent physiquement jusqu'au point que tout ce qui est autour de nous comme semble un peu fade, en fait.
Oui, oui.
C'est bien, je l'ai ressenti.
Oui.
Moi, j'abonde dans ce sens. Et personnellement, l'expérience, si je peux dire, comment physiquement j'ai ressenti, c'était dans le plexus, vraiment fort, une boule de chaleur, une chaleur très forte, une expérience d'un amour, comme disait un amour qui prenait toute la place. Là. Mais c'était vraiment, je peux nommer l'endroit dans mon corps que je disais, oh,
ah oui.
Oh là là. Et puis, ça me transportait, comme dit Martin, ça m'a transporté. Je me rappelle d'être sortie de l'abbaye et d'aller dans les champs, et je me sentais comme Saint-François d'Assise qui marche dans les champs dans le film de Zeffirelli, et d'avoir une espèce de légèreté, tout en étant enracinée, là, ancrée dans la réalité, mais
oui.
Ouais, un sentiment. Mais physiquement, il y avait quelque chose de très fort au niveau du plexus.
Oui, à l'intérieur. Là,
oui, vraiment. À l'intérieur, vraiment.
Oui.
Et la question de l'amour, à mon avis, est tellement essentielle dans une vocation. C'est-à-dire, quand on ressent cette présence-là ou cette expérience-là, il me semble qu'on ne peut pas faire autrement que se donner à Dieu.
Et une fois que le choix est fait de se donner à Dieu, est-ce qu'il y a un sentiment de soulagement? Ou sinon, revient rapidement la question du doute. Comment est-ce que c'est... est-ce qu'une fois le choix fait, il y a un apaisement?
Je pense que le doute sera toujours présent.
En fait.
C'est pas parce qu'on a vécu... C'est une expérience qui est intense, hein, donc qui nous fait basculer, comme je le disais, mais qui n'empêche pas un parcours à long terme. Mais la question du doute fait toujours partie, je pense que ça fait partie de la foi. Hein.
Mm-hmm.
C'est une question théologique, le doute, à mon avis. Et puis, bon, moi, je suis moine cistercien. C'est sûr que, pour moi, Saint-Antoine prend une grande place dans ma vie parce que c'est le père des moines. Et puis, Saint-Antoine disait, « À chaque jour, je recommence. » Donc, il n'y a pas un soulagement, au contraire, à chaque jour, on est appelé à renouveler, en fait, notre choix de différentes manières. Et puis, j'irais plus loin en disant qu'il y a même une vocation à l'intérieur de notre vocation. Donc, tout ça est à discerner au jour le jour. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut faire un choix d'entrer ou pas en communauté ou en vie religieuse. Mais après, l'appel se poursuit. C'est tout simplement, à mon avis, être à l'écoute de l'esprit.
Sœur Ginette?
C'est sûr que quand j'ai découvert que ma place était chez les recluses, j'ai ressenti une joie profonde, mais comme un aboutissement d'une recherche, d'un cheminement, d'un questionnement, mais qui ouvrait sur un nouveau chemin et qui disait « Wow, ça va être ça ma vie ». Et un chemin qui va à l'infini, sur lequel je pourrais toujours marcher en avant. Donc, moi, je le qualifie plus comme une joie, mais qui ouvre.
Et j'ai parfois l'impression que notre société, elle porte sur les religieuses et les religieux un regard qui est un peu fait à la fois de circonspection et de fascination. Parce que c'est un choix radical. Et un choix, je pense qu'il va un peu à contre-courant, beaucoup à contre-courant de ce que l'on vit au quotidien, la majorité des gens, donc la modernité, la rapidité, l'hyperconnectivité, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on gère cet aspect-là, cet aspect d'incompréhension que peut susciter votre choix de vie? Sœur Violaine?
Spontanément, je dirais, il y a quelque chose d'un mystère. Tout être est mystère. Hein? Il y a quelque chose de l'ordre du mystère. Et même si on est être religieuse ou religieux, on reste des êtres habités d'un mystère. Moi, quand quelqu'un me dit, ben, comment ça se fait que t'es devenue religieuse, et ben, j'ai écouté. Ce que je peux répondre, c'est que j'ai écouté ce qui m'habite au plus profond. C'est sûr que j'accueille que l'autre ne peut pas vraiment comprendre ou est fasciné, mais en même temps, moi, je regarde l'autre comme un être fascinant aussi et rempli de mystères. Alors, je pose sur lui ou sur elle le regard d'émerveillement devant l'enfant de Dieu, la créature de Dieu qu'il ou qu'elle est. Donc, j'accueille ce regard-là comme je peux le porter. Je me dis... Moi, je m'émerveille devant les couples hein, qui ont des enfants, les parents qui éduquent leurs enfants aussi. Ça me fascine, moi. Alors, je pense que ça va dans les...
Donc, c'est un émerveillement, une fascination partagée.
Oui, j'aime penser que c'est ça.
C'est ça, ah oui. Oui, et Sœur Ginette?
Il y a une part qu'on essaie de mettre en mots, qu'on essaie toujours d'expliquer avec un langage actuel compréhensible, mais il y a comme une part où ça se reçoit à l'intérieur de soi, où l'autre le reçoit à l'intérieur de lui ou de elle, et le partage se fait aussi à ce niveau-là, au niveau du ressenti, au niveau du... Il y a quelque chose qui nous dépasse toujours.
Oui. Ah oui.
Toujours.
C'est ça. C'est d'expliquer un peu l'inexplicable jusqu'à un certain point, là, parfois, dans la rencontre avec l'autre.
Moi, je crois beaucoup au mariage, en fait. Je crois que c'est vraiment une vocation en soi. Puis je suis aussi fasciné puis émerveillé devant ceux qui perdurent puis qui sont fidèles au mariage. Alors, je veux dire, c'est des deux côtés. Toute vocation, me semble, a un côté mystérieux qui fait qu'on dure puis on persévère à travers le temps. Alors, je peux comprendre que la vie religieuse soit parfois un peu, je dirais pas incompréhensible, mais mystérieuse. Mais encore là, ça fait partie de notre existence humaine. Et quand je rencontre des groupes, la première chose que j'essaie de faire, c'est de ramener les gens un peu sur notre humanité, en fait, le fait qu'on essaie de vivre une vie qui est à la fois très, très humaine, parce que je pense que c'est là puis on est dans l'incarnation, c'est là qu'on est le plus divin, qu'on est le plus humain. C'est ce qui est le plus difficile à atteindre, en fait.
Ouais.
Donc, de ramener ces gens à cette base-là pour leur dire, mais finalement, on construit par-dessus notre humanité. Alors,
c'est une voie d'humanisation.
C'est une voie d'humanisation, mais divinisation aussi, parce que la grâce nous est donnée. Forcément. Mais l'aspect mystérieux, je pense que c'est dans chaque existence humaine qu'on la retrouve. Je pense que Sœur Violaine l'a bien dit. Chaque personne est un mystère en soi. Puis même nous, on a de la difficulté des fois à nous comprendre puis à cheminer à travers ce qu'on est réellement puis ce qu'on est appelé à devenir aussi.
Il y a cette question éternelle qui doit, je suis certain qu'on vous l'a posée 655 fois. Cet aspect du deuil du couple, d'être parent, d'être mère, d'être père, est-ce que c'est une question qui, malgré le nombre de fois où on vous l'a posée, reste pertinente? Est-ce que ou pour vous, c'est juste, OK, assez, revenez-en, là. Vous savez que c'est pas facile à gérer de toute façon, vous la connaissez, la réponse. Comment est-ce que vous réagissez quand on vous pose ces questions-là, Sœur Violaine?
Moi, je t'avoue que je peux te tutoyer, Mathieu?
Oui, pas de problème.
Quand les premières fois qu'on me disait, ben là, t'auras pas d'enfant, qu'est-ce que, tu sais, puis la vie de couple, puis je dis, ben, douloureux, tu as dit, c'est pas facile à accueillir, mais en même temps, j'apprenais à vivre avec cette réalité-là et à l'aimer. Parce que je crois profondément, moi j'ai eu des témoignages de femmes, de sœurs qui étaient données à Dieu, mais très fécondes dans le fond, dans leur maternité psychique. Et ça, j'y crois profondément. Et une autre chose que je peux dire, c'est que maintenant, on parle de maternité et je l'entends autrement. Je fais, j'ai cheminé, je l'accueille, c'est plus douloureux. C'est quelque chose qui s'est creusé en moi, qui a fait son chemin, qui dit, bon, oui, c'est ma réalité et c'est une belle réalité parce que je ne me sens pas moins féconde dans l'être que je suis.
Oui. Martin?
agir un peu dans le même sens. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'on renonce à, on renonce à une maternité physique, si tu veux, au niveau de la famille. Mais moi, je suis prêtre, j'accompagne des gens, je suis maître des novices aussi, donc j'accompagne des personnes qui veulent entrer dans un monastère. J'essaie d'exercer une forme de paternité, si tu veux. Mais en même temps, c'est toujours ambigu quand on parle de paternité, quand on accueille, parce qu'on est toujours à côté de la personne. On n'est pas plus haut qu'elle, on n'est pas en dessous d'elle. Donc, il y a une forme de paternité qui s'exerce. Puis moi, je suis à l'aise avec ce choix-là, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai jamais senti que j'étais appelé à fonder une famille. Je pense qu'il y a une différence entre une sexualité, puis une vocation vraiment à fonder une famille. C'est deux choses. Puis c'est sûr que quand on fait des choix, on renonce. Donc on renonce à une partie, si tu veux, plus charnelle, mais en même temps, dans une communauté, si on vit vraiment l'amour fraternel, on retrouve quelque chose qui nous nourrit. Je te dis pas qu'on n'a pas des tentations puis que ça nous habite. Ça serait de mentir. Je veux dire, oui. On peut pas faire l'économie de cette partie charnelle en nous, puis de la beauté et tout ça. Mais je veux dire, on est capable de l'accepter, puis dans la mesure où tu l'acceptes, bien, c'est plus facile.
Oui.
Voilà.
Oui.
Mais je ne peux pas dire qu'on renonce totalement à la paternité. C'est juste une autre façon de l'exercer.
Vécu différemment.
Si tu veux. Mais oui. La question reste toujours pertinente. Ça, on ne peut pas en faire l'économie, comme je disais.
Ça devient quand même une paternité, c'est de transmettre. Donc, vous transmettez.
Bien sûr. Et la transmission,
maternité,
je pense qu'on va en parler dans l'émission au niveau de l'avenir, de la vie religieuse ou quoi que ce soit. La transmission est essentiellement importante, je veux dire.
Oui.
On ne peut pas passer à côté.
Oui. Sœur Ginette?
Oui, et quand on a fait une expérience aussi profonde de Dieu, en tout cas chez moi, et j'imagine chez Violaine et Martin aussi, moi, je porte le désir, à quelque part, de donner Dieu. Ouais. Pour moi, ça serait le plus grand don. Alors, quand je vois, dans le fond, quand je suis témoin de la présence de Dieu chez un autre, pour moi, à quelque part, même si c'est pas tangible, concret, je sais qu'à quelque part, par ma prière, j'ai contribué à.
Oui.
Et ça, pour moi, ça cause une grande joie là,
oui.
Intérieure.
Oui. Oui. Il y a ce préjugé assez, je pense que c'est assez fréquent, assez présent, une espèce de stéréotype tenace qui veut que l'on devient religieuse ou religieux, en quelque sorte, pour fuir le monde. Même s'il s'agit clairement d'un stéréotype, est-ce qu'il y a là une part de vérité?
Non.
Voilà, la question est réglée.
Non, parce que si on prend... Moi, je vais retourner à l'Évangile, d'accord? Donc, l'Évangile de Jean dit souvent, il faut fuir le monde, il faut quitter, en fait, ce qui est valeur, culture dominante du monde, OK? Donc, c'est-à-dire compétition, acharnement par rapport à la compétitivité, mépris des autres, indifférence, etc. Ça, c'est fuir le monde, à mon avis. Et c'est vraiment l'optique que a l'Évangile de Jean. C'est pas fuir le monde pour fuir le monde. C'est-à-dire que si on entre dans un monastère ou dans la vie religieuse pour fuir le monde, on va le retrouver de toute façon dans la communauté. Alors, oui. C'est juste s'entendre sur les termes « fuir le monde », je pense que c'est juste, mais en même temps, il faut s'entendre justement sur ce que le mot recouvre.
Oui. Hein?
Parce que je pense que l'Évangile est en contradiction avec plusieurs valeurs de la culture dominante qui fait qu'on veut fuir ça parce qu'on veut vivre le royaume, tout simplement. Alors, dans sa mesure-là, c'est vrai, mais si on veut fuir le monde parce qu'on n'aime pas les personnes ou quoi que ce soit, je pense qu'on n'est pas au bon endroit, tout simplement, parce que le monde va nous rattraper de toute façon.
Plus une prise de distance pour mieux,
voilà, pour mieux
y retourner,
vivre l'Évangile,
en quelque sorte.
Si
oui.
Tu veux.
Ah, oui. Oui. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose à cette
ben, moi, ce qui me vient, c'est exactement dans le sens de que Martin dit, mais fuir ce que la société propose toujours comme mode. Fais-le, donc suis le courant, tout mm-hmm. ça. Non, à un moment donné, il y a des valeurs qui sont beaucoup plus profondes et humaines et qui valent la peine de les choisir et de concrétiser dans un choix de vie pour les mettre en application.
Sœur Violaine?
Ça va dans le même sens. Donc, sans reste, c'est pas fuir autant que d'être avec le monde, mais avec le regard avec le regard de Dieu sur le monde. Et comme donc, c'est pas tant le fuir que l'habiter encore plus de lumière et d'amour.
Et le monde est en nous-mêmes. On a plein de violence, on a plein d'agressivité. Je veux dire, c'est ça qu'il faut fuir. Quand on prie les psaumes, souvent, moi, c'est ce que j'ai tendance à faire, c'est-à-dire c'est de m'éloigner de toutes ces valeurs ou de toutes ces passions qui sont contre le royaume. Encore une fois, c'est un long cheminement, mais pour moi, c'est ça. Ça fait partie de notre humanité aussi, le monde.
La vie religieuse en est une, entre autres, de rituels. Elle implique son lot de répétitions, de rites quotidiens. Qu'est-ce que ça vous apporte, un temps ainsi segmenté, encadré? Est-ce que vous vivez parfois les rituels comme un carcan ou c'est plus un tremplin, une source de liberté, en quelque sorte? Sœur Ginette?
Moi, je peux dire que je le vois plutôt comme un rythme dans la journée, comme une musique où il y a des cadences, où il y a des... Dans le fond, il y a des temps de prière précis dans la journée et on rentre à la chapelle, on sort, on re-rentre plus tard, on sort. C'est sûr que dans des temps segmentés, mettons, j'ai une heure et demie de travail, il y a un apprentissage là-dedans à dire, bon, ben là, je fais ça et non pas ça, ça et ça. Ça, c'est avec le temps que ça s'apprend, où on peut plus se concentrer et accepter qu'on ne peut pas tout faire et prendre le temps. Mais notre vie, on choisit de le rythmer autrement, avec les temps de prière et tout ça.
Donc, l'apport des rituels qui sont quotidiens, c'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte à une spiritualité, à la vie religieuse, Sœur Violaine?
Moi, je suis d'une communauté apostolique, donc ces rituels-là, on en a aussi, pas comme autant que dans la vie monastique, mais il y a le rituel de l'Eucharistie qu'on est invité à vivre en paroisse. Mais le rituel, moi, le rituel qui me nourrit beaucoup, à part l'Eucharistie, évidemment, c'est la prière communautaire. Et quand je ne peux le vivre, parce que bon, il y a des fois où nos engagements, où on le planifie dans notre horaire en communauté, et puis je le remarque, quand j'ai pas prié avec mes sœurs de deux fois dans la semaine de 7 jours, ben je m'en rends compte, il y a quelque chose, pour moi c'est un tremplin, voir ce rituel-là comme un tremplin, vraiment une source, vraiment comme une source.
Sœur Ginette, en préparant un peu l'entrevue, j'ai lu que l'Eucharistie, pour vous, avait eu une portée signifiante, majeure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Ça, suite à l'expérience que j'ai vécue à 17 ans, ça s'est fait comme en deux temps. La première expérience où je me suis sentie aimée par le Christ, c'était une soirée en semaine. Et le dimanche, quand je suis allée à l'Eucharistie avec mes parents, comme d'habitude, et que je suis retournée à ma place après la communion, ce n'était plus comme d'habitude. Pourtant, j'avais participé à l'Eucharistie maintes et maintes fois depuis ma jeunesse, mais là, pour la première fois, j'ai reconnu la présence du Christ dans le pain et je me souviens, je le regardais et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Toi qui es le Dieu créateur du ciel et de la terre et tu te fais présent dans ce pain que moi je peux manger. Et c'est là où ça m'a mis sur un chemin où j'étais attirée par l'Eucharistie et j'ai abouti à ma communauté vraiment précisément à cause de ça. Donc, dans notre vie de prière, on a l'adoration eucharistique et chaque sœur assume une heure et demie d'adoration dans sa journée ou dans la nuit. Alors, ça a une place très, très importante.
Oui. Et quelle est la place de la joie dans la vocation? Sœur Violaine?
Capital, essentiel.
Avec un grand sourire.
Peut-être pas toujours, mais non. Mais je pense que c'est la joie. C'est la joie d'être aimé de Dieu. Je pense que dans la vocation, c'est s'il n'y a pas de joie, ben là, ça se peut pas. Hein? Qu'il n'y en ait pas.
Mais donc, en tout cas, elle est palpable, cette joie. Ça, j'avoue que... Oui, c'est Martin.
Le pape François, dans sa lettre pour l'année de la vie consacrée, dit « Là où il y a des consacrés, il y a de la joie. »
Oui.
Alors, je pense que c'est vrai, mais en même temps, pour moi, la joie, c'est quelque chose qui est... évidemment, c'est pas parce qu'on n'a pas le sourire qu'on n'a pas la joie. Tu sais, quand on est bien dans sa vocation, quand on a trouvé notre place, je pense qu'il y a une espèce de... Moi, j'aime beaucoup la musique, je suis musicien, alors comme j'aime beaucoup le baroque aussi, donc la basse continue dans le baroque. C'est quelque chose qui est de fond, puis qui est là. T'sais. C'est comme une espèce de joie-confiance, là, où on sait qu'on est aimé de Dieu, puis que... waouh, la vie est belle, tu sais. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des remous. C'est comme quand tu es dans l'océan, tu peux être bien calé, mais au-dessus, il y a des vagues, tu sais. Mais tu dis, bon, d'accord, il y a des vagues, mais ça va passer, tu sais. Puis je sais que je suis là, puis je suis bien ancré dans quelque chose, ou plutôt dans quelqu'un.
Oui.
Et puis c'est ça pour moi la joie. Ça veut pas dire qu'on va nécessairement déborder de sourire et puis d'allégresse à chaque jour, là, mais il y a une espèce de base continue qui fait qu'on est, est heureux. Quoi.
Oui. Parlez aussi ailleurs d'un ruisseau, je crois. La joie comme ruisseau où on peut y retourner au besoin,
oui,
qui est toujours présente.
J'aime beaucoup l'image de la source.
Oui,
en fait.
Okay, oui,
c'est ça, un peu comme l'enfant prodigue qu'on a eu le dimanche dernier, là, qui est coupé de la source. Là. Mais je me dis, d'avoir cette source-là, ça nous permet vraiment d'être ancré dans quelqu'un, dans un Dieu qui est vivant.
Sœur Ginette?
Et j'ajouterais de pouvoir le vivre, cette joie-là, avec d'autres.
Oui,
avec des sœurs, de partager, avec des sœurs et des frères, avec des amis, ça contribue énormément.
Oui. Oui.
Je pense que la joie en communauté, c'est vraiment important. Tu parlais tantôt de rituels puis tout ça, mais la communauté nous porte vraiment, tu sais. Puis même quand on n'est pas là, des fois, on est là de corps, mais on n'est pas là nécessairement d'esprit dans une prière. Ça arrive parfois, mais la communauté nous porte, puis ça fait que la joie est quand même présente. Là. Ça,
c'est cultivé.
Oui, un aspect vraiment important, l'aspect communautaire d'une vie religieuse.
Oui. Mais sœur Violaine, sœur Ginette, frère Martin, un grand, grand merci pour ces témoignages autour de vos chemins de vie. Merci beaucoup.
Bienvenue.
Merci, Mathieu.
Je rappelle que Sœur Ginette Généreux est recluse missionnaire, que Sœur Violaine Paradis fait partie de la congrégation de Notre-Dame et que Martin Lortie est frère de l'Ordre des moines cisterciens. Je m'appelle Mathieu Lavigne. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de ce premier épisode de Vie religieuse aujourd'hui et demain, une émission proposée par la Conférence religieuse canadienne. Un amical merci à Anne-Louis Lins à la régie. La semaine prochaine, on retrouve Violaine, Ginette et Martin pour une conversation sur la contribution de ces trois jeunes religieuses et religieux à l'Église et à la société d'aujourd'hui. D'ici là, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.